je regarde la game, mais je regarde le coach, puis je regarde les gardiens de but. J'étais un ancien gardien de but, puis ça. Puis je suis retourné pendant les séries, puis c'était deux coachs complètement différents, là. Deux gars, là, tu voyais, en série, là, Pat était en série, là.
Ouais.
Fait que c'était un gars qui a... on le sait, on le connaît, là, on le décrira pas, là, de midi à 14h. C'est un gars qui a beaucoup de passion, puis il joue la game en arrière du banc. Mais n'avoir que ça... Tu sais, t'as John Tortorella qui coach encore de cette façon-là. T'avais Mike Keenan qui coachait de cette façon. Il n'a plus bien des coachs juste tough. Puis même ceux qui sont juste tough, bien souvent, quand ils sont plus coachs, il y a des choses qui sortent sur eux autres qui sont pas cute non plus. Mm. Là, il y a des rumeurs là, dans le junior majeur aussi sur un coach là, qui apparemment serait trop tough peut-être, au point d'être irrespectueux. Mais bon, c'est des rumeurs. Mais je pense que tu peux être encore dans le tough love, mais il faut que tu gardes le respect de tes joueurs. Puis c'est la même chose dans la vie. Là. C'est la même chose avec nos enfants. Tu sais, mes enfants, j'ai du smooth love, puis des fois, ça prend du tough love, là, tu sais, pour imposer des conséquences. Ben il faut être tough un petit peu pour imposer des conséquences.
Mais je sais pas, toi, moi, ayant évolué au hockey, pas au même niveau que toi, mais j'ai évolué au hockey une bonne partie de ma vie avec des coachs qui étaient raides, là, puis qui nous faisaient des affaires, des fois, tu te dis, avec du recul, t'as le coach, avec 40 ans, il disait ça à des jeunes de 12-13 ans. Il était rough en sacrifice, mais... 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, Jean, je peux te dire que je me souviens de ces années-là, puis je me dis, excuse-moi l'expression, mais Asti, il avait raison de nous brasser le cul un peu. Il avait raison, puis aujourd'hui, si on enseignait aux enfants comme nous, on nous enseignait, ça serait considéré comme et criminel, à la limite. Puis oui, il y a d'autres façons de parler à des enfants puis de leur expliquer et tout ça, mais on dirait que moi, personnellement, avec du recul, là, c'est de ça que j'avais besoin de me faire brasser parce que je réalisais pas à quel point c'était le fun de gagner. Là.
Quand tu. Puis encore là, c'est la même chose avec tous les autres aspects de notre vie. Quand tu le comprends que le respect est là, même si la personne en face de toi est tough, t'embarques dans son affaire pareil. Ouais. Il y a une portion de toi qui dit je vais y aller pareil. Tu sais, dans le junior. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça ici, mais j'ai fait mes 4 ans junior. Là. Il m'avait gardé comme joueur de 20 ans. J'étais gardien de but. Depuis ma première année junior, j'étais gardien numéro 1 pour ce club-là. On avait tout gagné. Et on arrive à dernière série éliminatoire, mon match de 20 ans. On se fait planter en sixième match, 6-2. Donc là, on s'en va au match ultime. Ça va être le dernier match junior de ma vie, compétitif, à moins que je me fasse repêcher. Mais je ne pense pas que j'étais parti pour ça. Et on se fait planter 6-2. On revient jouer le dernier match à domicile le vendredi à Québec. On savait que c'était pour être jam-pack. Et j'apprends dans le journal pendant la semaine que c'est pas moi qui vais gauler. C'est un peu, là. J'ai été ton gardien de but numéro 1 pendant 4 ans.
Ouais.
Je suis rendu à la fin. J'ai pas été bon dans le dernier. Puis c'est pas moi que tu vas mettre d'un but. Écoute, j'ai fait la baboune. J'étais arrivé en retard dans le warm-up. J'ai pas pris de lancer. J'ai pas fait d'étirement, rien. Je parlais de Patrick. À un moment donné, on sort de la glace après la période de réchauffement. L'aréna est pleine, là, l'atmosphère. Puis là, le kid, lui, est dans les buts là-bas. Puis il se réchauffe. Là, c'est le match de sa vie. Là.
Mm-hmm.
Il a gaulé à peu près 10 matchs dans l'année. En sortant de la patinoire, je mets le pied sur le bord de la patinoire. Ma lame de patin casse. Ça va pas bien, là. Tu sais, je suis rendu à la fin de ma carrière de hockey. Le coach me fait chier dans les journaux.
Ouais.
C'est pas moi qui gaule. Je casse ma lame. En sortant de l'aréna, à Sainte-Foy, il y a deux arénas. L'autre, dans l'autre aréna, pratiquait le midget 3 de Sainte-Foy. Je vois ça passer ça, c'est un grand flambou-là. J'ai dit à mon soigneur, j'ai dit, va chercher ses patins. Et d'après moi, ça va me faire. Puis c'était Patrick, justement. Puis là, je mets les patins à Patrick. Ah ouais, mais écoute, c'est pas la même marque de patins. Il y a des petits pieds, j'ai des grands pieds. Je me mets ça dans les pieds. J'ai mal aux pieds. En plus, je m'ai passé la soirée sur le banc à avoir mal aux pieds. Coach range dans la chambre, mon coach Tough Love, mais pour lequel on avait beaucoup de respect, il fait un speech de motivation extraordinaire. Et là, il fait le starting line-up, ceux qui vont commencer ça à la glace. À l'avant, tel joueur, tel joueur, tel joueur. À la défense, tel joueur, t'as un but. Il me regarde, nado, puis il sort.
Ish.
Lui, là, il savait exactement comment venir me chercher. On gagnait 2-1, 62 lancés, première étoile. Lui, là, il savait. Ça, c'était du tough love. Et après, comme tu dis, après, tu comprends. Tu dis, ouais, il a bien fait en bâtiment.
Il a bien fait.
Il a bien fait.
Puis je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme société. T'sais, moi, je constate, puis c'est peut-être mon bagage de préjugés que j'ai, puis que j'étale, mais c'est pas grave, je suis la même personne hors d'onde qu'en onde. Je constate qu'on a une société plus mollassonne.
Hein?
beaucoup plus mollassonne. Hein? Un simple coup de vent peut faire de la peine à des gens. Oh, ben, puis je me dis, OK, c'est parce que là, ces gens-là vont avoir des enfants, puis ils vont être encore plus soft avec leurs enfants. Qu'est-ce que ça va donner
dans 100 ans? Je suis content que tu abordes ce point-là. Moi, j'appelle ça une société de moumoune. On est en train on est dedans, dans la société de moumoune. Je te donne un exemple. On parle de coach. Une des plus belles occasions pour un coach de donner une leçon à des kids, c'est dans la défaite.
Oui.
Hein? Puis surtout si tu te fais planter 100 à 25 au basket, mettons. Mm-hmm. C'est une méchante leçon à donner là. Mais là, ils sont rendus, là, j'ai vu ça dans un article un moment donné aux États-Unis, là, quand il y a un écart de points, de plus de 50 points, là, ils ferment le tableau. Ils ferment le tableau indicateur pour pas blesser les petits loulous, là. Non, mais on va se faire ridiculiser, on va regarder le pointage, on va se faire... Hey, yeah, c'est la finale de la Coupe cette année, c'est 8-3, t'es en finale. C'est humiliant,
ouais.
Mais il y a une leçon là. Ouais. Mais là, on est en train de passer à côté de ça, passer à côté de la défaite, puis de la leçon qui peut venir avec la défaite. Pourquoi? Ben, pour pas faire mal au petit cœur.
Ouais.
Puis rentrer dans le moule de la société politiquement correcte, là, puis de juste pas trop brasser. Là.
Mais je sais pas, Jean, pourquoi on en est rendu là. C'est-tu des psychologues qui nous ont apporté ces nouvelles façons de voir la vie? Mais tu sais, j'essaye le plus possible d'y aller avec le gros bon sens avec mes gars, t'sais. Puis je suppose un père toxique pour ce qui est de leur sport et tout ça, mais j'écoute ce qu'ils me disent. Puis à un moment donné, ben mon gars, mon plus jeune, il a un talent naturel fatigant là, au deck hockey puis au hockey. Il a pas besoin de se forcer puis ça fonctionne. Puis j'en ai un autre, Joshua, qui est mon plus vieux. Lui, c'est un travaillant sans relâche, il abandonne jamais, mais ça ne dérange pas de perdre.
Mm-hmm.
Puis là, l'autre, qui a le talent naturel, il gagne, excuse-moi, il fait 3 buts, puis il perd avec son équipe 15-3. Fait que là, il sort de la surface de plastique, là, parce qu'il joue au deck hockey. Il me dit, je suis le roi, j'ai compté 3 buts.
Oui.
Je dis, non, t'es pas le roi, vous avez perdu. Ouais, mais il dit, papa, moi j'ai gagné, j'ai compté 3 buts. Non. Collectivement, avec ton équipe, là, vous avez perdu 15 à 3. Puis pendant que tu étais sur la surface, tu t'es fait marquer beaucoup de buts, Isaac. Puis là, Isaac, il dit, ouais, mais papa, t'es en train de dire que j'étais pas bon. C'est pas ça que je te dis. Tu as réalisé une belle performance, mais t'as perdu.
Ouais.
T'as pas gagné. À la fin, on va se souvenir des gens qui ont gagné, puis on se souviendra pas nécessairement des gens qui ont perdu. Mmh. C'est sûr qu'il y a 6 ans, 7 ans. Mais j'essaye justement de pas encourager cette culture-là de... Bon, étant en groupe, on essaie de gagner, on perd, c'est pas si grave que ça, on passe à d'autres choses. Parce que quand tu vas être rendu sur le marché du travail, Jean, faut que tu gagnes pour mériter ton poste de travail. Là, actuellement, ils l'ont facile parce qu'il manque d'employés partout. Fait que même les estides pas bons, on les garde pareil. Mais à un moment donné, il va y avoir le taux de chômage qui va augmenter. Ouais. 7, 8, 9, 10 %. Puis les pas bons là, qui auront appris de cette façon-là, c'est pas grave si on perd, bien, ils vont comprendre que dans la vie, il faut que tu te battes pour gagner.
J'ai déjà fait un live à un moment donné où là, j'avais reçu des tomates. Je dis aux gens, arrêtez de dire à vos enfants qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont uniques, oui, mais qui sont, tu sais, t'es extraordinaire, t'es un modèle unique. Ben, quand il va arriver dans la vraie vie, là, il va se rendre compte qu'il y en a d'autres extraordinaires.
Ouais.
Tu sais, il est extraordinaire pour vous, mais dans la vraie vie, il n'est pas extraordinaire. Mm-hmm. Il n'est pas en dehors de la norme. C'est un kid qui va faire ce qu'il a à faire puis qui va évoluer. Tu posais la question tantôt, comment on en est arrivé là. J'ai lu un article à un moment donné, je t'en ai en passé à peu près, et la personne a amorcé une réflexion d'où ça peut être venu là, le fait qu'on soit rendu si moumoune que ça. Et il reliait ça à l'écoute. Tu sais, dans le temps de nos parents, ou peut-être plus de nos grands-parents, ils n'écoutaient pas leurs enfants. Tu sais, je suis le boss, c'est moi qui décide, tu sais, comme ça, puis ferme ta gueule. Ben, tu sais, c'est quoi la différence entre l'autocratie et la démocratie? La démocratie, c'est... l'autocratie, c'est moi qui décide, ferme ta gueule.
Ouais.
La démocratie, c'est... C'est moi qui décide. Dis ce que tu as à dire, mais c'est moi qui décide quand même, ferme ta gueule. Mais avant ça, c'était l'autocratie, puis on n'écoutait pas nos enfants. Là, c'est le retour du balancier. On écoute. Les parents sont beaucoup plus à l'écoute de leurs enfants, ce qui est extraordinaire. Mais d'être à l'écoute de nos enfants, ça ne veut pas dire de les surprotéger.
Exact.
Tu sais, de leur donner toujours raison. Sois à l'écoute, argumente sur les points qui sont pour toi des points de valeur que tu veux lui enseigner. Mais ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, puis il faut que tu sois toujours dans le overprotecting. Ils appellent ça les helicopter parents, là, ceux qui sont autour, par-dessus leur enfant, puis qui protègent tout le temps. Ben, quand ils vont partir de la maison, là, vous leur aurez pas rendu service.
Tu sais, retirer la compétition, tu sais, ou essayer de dire, ah, l'intimidation, il faut anéantir ça. L'intimidation, elle est extrêmement toxique. On est tous d'accord pour dire ça. Mais l'intimidation, on ne réussira jamais à l'enrayer parce que même dans le monde adulte, elle est présente, cette intimidation-là. Donc, de dire aux enfants, non, l'intimidation, c'est mauvais, puis de ne pas les outiller pour faire face à cette intimidation-là, lorsqu'ils vont grandir, ils vont arriver dans des équipes de hockey, intimidation, ils vont bloquer. Ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont pogner quelqu'un qui, lui, est un peu plus rustre dans sa façon d'être, puis ils vont comme geler en disant, tu sais, ben voyons pourquoi il me parle si bête que ça. Eh bien, voyons, comment ça, il ne me dit pas bonjour chaque matin, tu sais, j'ai-tu fait de quoi de mal, tu sais, puis pourquoi il me regarde avec ses gros yeux-là? Il y en a partout, ben l'intimidation, mais on essaie de leur donner comme quelque chose qui n'existe pas, dans l'espoir qu'un jour, ça n'existe plus, alors que ça existe.
Exactement, exactement. À un moment donné, j'étais intervenu dans une émission avec, comment est-ce que c'est, José, avec le Doc Mailloux, là.
José Arsenault
puis le Doc Mailloux, puis il parlait d'intimidation, puis que j'avais appelé hors d'onde parce que je connaissais José, puis il m'avait mis en onde, puis j'avais dit, mon point de vue était, il y aura des intimidateurs tant qu'il y aura des intimidés.
Exact.
Tu sais, l'intimidateur, lui, il va juste chercher le prochain à intimider. Ouais. Mais si l'intimidé, on l'éduque à ne plus être un intimidé, à faire face à ça... Ben, t'as parce là qu'il y a, au moins, toi, tu vas être sauvé. Il va peut-être passer sur un autre, mais du coup, l'autre aussi. Ouais. Tu sais, je disais dans le show, puis le Doc Mailloux, il dit, enfin, quelqu'un qui a compris, je ne prône aucunement la violence, mais j'aime bien mieux montrer à mon fils comment ne pas accepter de l'intimidation envers lui, puis qu'il revienne à la maison avec une petite lèvre qui est enflée puis qui a saigné pendant la journée, que d'avoir à retravailler son estime pendant 10 ans, parce qu'il s'est laissé intimider. À un moment donné, swings-en un. Ou, comme je te dis, c'est pas nécessairement passé par la violence, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Si tu dis non, non, c'est terminé, t'arrêtes de m'intimider. Christy, l'intimidateur, là, il va passer à un autre. Mais sais-tu comment je sais ça? Parce que j'en étais un d'intimidateur.
Ouais.
J'étais du côté des intimidateurs. Puis quand il y en a un qui disait non, ben, je passe à un autre.
T'apprends-tu dans le confort? Moi, j'ai jamais appris dans le confort.
C'est la base de mon approche.
J'ai toujours appris dans la misère. Tu sais, quand j'avais pas une crise de scène au cégep, puis que je me rendais compte que mon budget avait passé dans les caisses de bière, puis ce qui me restait comme argent, c'était pour le craft dinner dans notre temps qui était à 1 piastre, ben je me disais, hey, j'ai peut-être fait des mauvais choix dans la vie. Là.
Ouais.
Mais tant aussi longtemps que tu n'en as pas manqué, là, tu peux pas savoir comment gérer ton argent.
Personne n'a jamais changé dans sa vie alors qu'il était confortable. On change quand on est inconfortable. Le problème, c'est que l'inconfort, ben, c'est pas confortable, hein? C'est pas le fun. Fait que de faire face à l'inconfort, c'est une des choses qu'on parle dans la fameuse retraite dont on a déjà parlé ensemble. Faut accepter l'inconfort. Encore là, l'inconfort est une source d'éducation phénoménale, mais on y fait pas face, on met ça en dessous du tapis à chaque fois. On met un petit plaster.
Tu sais, là, je te fais rentrer dans le merveilleux monde de la radio, mais j'ai rencontré un gars de la radio, un gars qui fait de la radio depuis des années et des années. Il animait d'un bar dans le temps et tout ça. Puis c'est quelqu'un qui est bien positionné aujourd'hui dans ce merveilleux monde-là. Puis il me disait, je l'avais rencontré au Rempart, justement, on parlait des Remparts tantôt. Il me disait, Yann, gros respect, là, tu pars d'une station de tête où ton poste était assuré pour les prochaines années avec de bons sondages, puis tu t'en vas dans une station qui redémarre, tu sais. J'ai dit, ouais, ben c'est un défi que je me suis lancé à moi parce que j'étais dans le confort, puis j'avais l'impression que j'avais fait le tour, puis j'étais pas heureux de ça. J'étais heureux de faire de la radio puis de jaser avec mes auditeurs, mais j'avais besoin de plus, j'avais besoin de défis. Fait que je me suis mis en danger tout simplement pour voir si je pouvais pas m'améliorer dans quelque chose. Il y en a qui vont être déçus, mais pour voir si je pouvais pas m'améliorer dans quelque chose, puis découvrir d'autres facettes de moi que je connaissais pas nécessairement. Puis il m'a dit, écoute, c'est un gars qui est jeune, là. Je veux pas trop l'identifier, mais il m'a dit, Yann, j'ai beaucoup de respect pour toi. Si c'était à refaire, moi, dans mon cas, je referais la même chose que toi. Je disais, OK, mais qu'est-ce que tu fais là présentement dans le poste où tu es? Ben, j'attends la fin. À un moment donné, ça va arriver. Ils vont me le dire. Là, ouais. Ils vont me dire, regarde, c'est fini. Puis, tu sais, ils ont les sondages qui vont avec. Il attend la fin, puis la fin, il s'en vient probablement bientôt. Mais, bon Dieu, quand même que tu aies 50, 60 ans, c'est encore le temps de changer.
Mais ça.
Il te reste encore plusieurs années à vivre. Oui. Pourquoi tu restes là-dedans, dans ton confort, mais en étant triste?
Le plus grand regret, il y a une femme aux États-Unis, Brownie Ware, qui a écrit un livre. C'est une femme qui accompagne, qui accompagnait, là, je pense pas qu'elle fait ça encore, je pense qu'elle est rendue plus conférencière et auteur, mais pendant des années, elle accompagnait les gens qui mouraient, les mourants, là, mettons comme à la maison, Michel Sarrazin, quelque chose comme ça, accompagnante de décès. Et à un moment donné, elle a commencé à écrire un livre, puis elle a posé la question aux gens, « Quel est votre plus grand regret? » La personne est sur le point de mourir, là.
Ouais.
Quel est votre plus grand regret? Elle dit de loin, le plus grand regret des gens était de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie comme ils l'entendaient au lieu de vivre la vie que les autres voulaient qu'ils vivent.
Exact.
Vis ta vie comme tu l'entends. Bâtin, t'en as juste une.
Ouais.
Puis tu peux, t'as un projet, tu peux le faire, peu importe l'âge. Il y a une autre dame, là, de, Madame... comment est-ce qu'elle s'appelle? Non. Madame Schultz. Madame Schultz, je ne me souviens pas de son prénom. Aux États-Unis, elle est décédée maintenant, mais c'est arrivé dans les années 80. Madame Schultz, elle arrive de faire son épicerie, puis elle rentre dans l'entrée chez eux, puis il y a une petite pente dans l'entrée. Fait que, puis elle garde son petit-fils, le fils de sa fille, et qui a de peu près 7 ans, quelque chose de même. Fait qu'elle sort, prend le premier sac d'épicerie, elle rentre en dedans, elle est rendue en dedans, elle entend un cri de mort. Elle sort sur le balcon rapidement. Et elle voit, l'auto avait reculé un peu sur le kid. Le kid était en dessous de la roue arrière.
Mmh.
Madame, là, écoute, elle est grosse comme... Elle siffle au grand vent, là. Elle est grosse comme un pou, là. Elle avait 78 ans. Elle est partie à la course. Elle est descendue dans l'entrée. Et elle a soulevé la voiture. OK, on se comprend, là. Pensez pas à Superman, puis elle l'a au bout des bras, là. Mais elle a soulevé la carrosserie de la voiture suffisamment pour que le premier voisin qui est arrivé, il était capable de glisser le kid pour le sortir d'en dessous de là. Mm-hmm. L'ambulance est arrivée. Puis là, les journalistes du petit village sont venus la voir, puis ils voulaient faire une entrevue avec elle. Puis elle a jamais voulu donner une entrevue sur la situation. Puis ça reste comme ça. Quelques semaines plus tard, elle s'en va faire son épicerie encore et arrive dans une allée. Puis là, il y a un kid qui étudie en journaliste qui la voit. Ben, elle dit, il faut que j'aille poser la question. Je m'essaye. Fait qu'il s'approche d'elle. Bonjour, j'étudie en journaliste. J'aimerais vous parler par rapport à ce qui est arrivé. Elle dit, non, je ne donne pas d'entrevue. Elle dit, non, mais ce n'est pas directement sur ce qui est arrivé que je vais vous poser une question. Puis là, il enchaîne avant même qu'elle ne donne pas le temps de dire, non, je ne veux pas de question. Il lui dit, pourquoi n'avez-vous pas voulu donner d'entrevue? Puis ça, elle a répondu parce que j'avais honte. C'est un peu, t'avais honte? Tu viens, bon, peut-être pas te sauver la vie d'un kid, mais tu viens de lever une auto à l'âge que t'as, à la grosseur que t'as, suffisamment pour en tout cas, limiter les blessures. Puis elle dit, ouais, j'avais honte parce que quand j'ai réalisé que j'avais réussi à faire ça, sans même y penser, j'ai repensé à toutes les choses que j'ai pas le goût de faire dans ma vie.
Ouais.
Puis ça, j'ai réussi à faire ça. Ben, j'ai honte pour toutes les choses que j'ai pas eu le goût de faire dans ma vie. Puis il dit, exemple quoi? Ben, elle dit, j'ai toujours voulu être géologue. Elle, la tripe, c'est roche. Elle veut être géologue dans la vie.
Ouais.
Ben, il dit, Madame Schultz, allez étudier en géologie. Vous allez sortir dans 4 ans avec un diplôme de géologue. Elle dit, monsieur, dans 4 ans, je vais avoir 82 ans. Elle dit, ouais, mais vous allez avoir 82 ans de toute façon, avec le titre de géologue ou pas. Elle tabarcela qui est allée le faire, puis elle est sortie de là avec son titre de géologue. Elle est morte quelques années plus tard.
Ouais.
Mais elle avait honte de pas. Vous avez un projet, faites-le peu importe quand. Tu sais, quand tu me dis, on se met en danger. T'es bien comment dans ta zone? OK, on est bien dans notre zone. Quand on s'écrase dans notre divan, on est bien. Mais tu vas-tu passer le reste de ta vie à être bien écrasé dans ton divan?
Oui. Puis, tu sais, de se mettre en danger, là, c'est ça serait faux de te dire, Jean, puis moi, c'est moi personnellement, comme je le vis, là, c'est terrorisant. Là. Mm-hmm. OK? Là, on a eu des sondages la semaine passée.
Ouais.
C'était mes premiers sondages à moi. Augmentation marquée pour l'émission du midi et une augmentation très remarquée dans l'émission du soir qu'on est en train de faire là, qu'on le fait plus sur un style de podcast, discussion. On pitch à gauche, à droite. C'est des chums qui jasent autour d'une bière puis on s'amuse. Ça, là, c'était une journée où j'ai été heureux. Là, waouh, tu sais, je me suis mis en danger. Là. Mais le lendemain, j'ai recommencé dans mon doute. Là.
Mm-hmm.
OK, ben là, j'ai réussi à monter un peu. Comment je vais faire pour ne pas descendre? Puis comment je vais faire pour monter encore? Tu sais? Puis là, c'est tout le temps des remises en question. C'est terrorisant de se mettre en danger. Mais dans 10 ans, là, je vais me dire, si je l'ai fait.
Mm-hmm.
J'étais assez courageux pour le faire. Puis je ne veux pas faire de millage là, politique avec toi. C'est pas le but. Là. Mais tu sais, je pense à Éric Kerr. Là.
Mm-hmm.
Tu sais, si j'étais son ami, là, je le prendrais par l'épaule et je dirais, Éric, 170 000, c'est beaucoup d'argent. Là.
Mm-hmm.
Mais ta santé mentale, ta santé physique est pas mal, vaut pas mal plus que ça par année.
Tout
à fait. Va-t'en.
Ouais.
votant. Puis je comprends pas pourquoi il s'accroche au pouvoir, parce que visiblement, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Réussit pas à faire le travail, ne sera probablement pas réélu dans 3 ans, mais continue à s'accrocher au pouvoir en disant « Non, mais je devrais avoir des félicitations pour le travail que je fais », alors que les félicitations ne viennent pas. Les gens sont accrochés à leurs avoirs. Mm-hmm. Les gens sont accrochés à l'argent alors qu'il y a tellement d'autres choses en bout de ligne.
Tu sais, avoir le guts de se mettre en danger, c'est une chose, mais avoir le guts de changer aussi en cours de route, c'est un autre. Tu sais, tu donnes cet exemple-là, je prends toi ton exemple où tu étais avant puis tu t'en viens ici, tu es parti de quelque chose pour venir te mettre en danger.
Tout le monde m'a traité de fou. Là.
Ben exactement. Et... Puis lui, s'il partait, il y a du monde qui dirait « T'es fou, qu'est-ce que tu fais là? Tu gagnes 170 000 par année, mm-hmm. t'es assis. » Ben, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu sais, on la pose cette question-là, à un moment donné, à la retraite. Qu'est-ce que tu veux faire du reste de ta vie? Là, quand on pose cette question-là, là, le monde, là, c'est... ils ont l'air d'un chat qui regarde un fan qui tourne au plafond. Là. Je me suis jamais arrêté à ça. Vraiment, qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais ça faire de la voile. J'aimerais ça faire du voile. OK, mais de façon globale, là, pour ce qui te reste à vivre, là, c'est quoi les choses que tu dis, ça, faut que je vive ça, pour pas justement avoir le regret à la fin de dire, j'aurais donc dû. T'as par cela, tu sais, mon expression que je dis tout le temps, manger du steak pendant que vous avez des dents. Je vais avoir un dentier, puis je vais manger encore du steak. Là. Moi, là, sur ma pierre tombale, à la fin, là, ça va être, tu sais, le signe dans notre auto où la gasoline, c'est plein.
Ouais.
Là, t'as l'aiguille qui est rouge, là, puis qui s'en va dans le jaune, puis là, ça descend en bas de la petite affaire. Puis, là, c'est... Moi, ça va être ça. Ça va être Jean Nadeau avec ma date de naissance puis de décès, puis ça va être ça, puis ça va être vide. Ça va être vide, il n'y a plus rien. C'est terminé. C'est terminé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire.
Ouais.
Je ne pense pas que je vais y arriver nécessairement parce que j'en ai beaucoup encore dans ma plate à faire, mais je vais en avoir fait un tabarnouche de paquets de choses. Puis ça, je n'ai pas réalisé ça là, à l'âge de 20 ans. Là. Souvent, on ne pense pas ça quand on est jeune comme ça, mais plus j'approche, tu sais, j'ai 60, là, la moyenne d'âge, c'est 82 chez les hommes.
Mm-hmm.
Il me resterait 22 ans à vivre. Puis ce n'est pas les 10 dernières qui vont être les plus extraordinaires nécessairement, là, tu sais, au niveau de la santé. C'est demain, ça, là. Là.
Ouais.
C'est demain, là. Mm-hmm. Faut que je fasse quelque chose.
Oui, puis tu sais, quand on était jeune, on ne réalisait pas ce facteur temps-là. Puis plus on vieillit, plus on le réalise. Moi, la semaine dernière, en fait, c'est l'autre semaine d'avant, mon ex-belle-mère est décédée. Mm-hmm. La mère de la mère de mes enfants.
Ouais.
Fait que c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé ma vie quand même pendant 17 ans. Ouais. 16-17 ans, faut pas que j'oublie, parce que sinon, on va m'en vouloir. T'sais, j'ai été à voir sur son lit d'hôpital avec mes gars, puis on expliquait à mes gars que leur grand-mère avait besoin d'amour, puis qu'elle était malade et tout ça. On m'a pas dit c'est la dernière fois que tu vois ta grand-mère. C'est des enfants. Fait que sont allés voir leur grand-mère, ils l'ont flattée. Puis je sais très bien qu'elle, là, elle aurait aimé toffer quelques jours de plus là, pour voir tous ses amis. Là. Fait que pour elle, le facteur temps maintenant, là, c'était minute après minute. Tandis que nous autres, on repousse peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines. Il n'existe pas ce temps-là. Tu sais, comment on va-tu être capable de le faire ou de ne pas le faire? Tu sais, là, tu es encore jeune, tu es chanceux, tu as 60 ans. Tu as de l'air de 41, là. Mais tu es encore jeune, mais je pense aux gens qui... Puis en plus, tu fais les métiers que tu aimes, t'en as plus qu'un. Tu es comme moi, en fait. Fait que, tu sais, j'essaye le plus possible de réaliser ce que je peux pendant le temps que je suis capable, tout en mettant pas trop de stock dans les affaires que je veux faire pour réussir à faire ce que je veux faire.
Exact. Ouais. Bien faire ce que tu veux faire.
Ouais.
Ouais.
On parlait tantôt là, de nos petites fleurs, là, de la façon dont on élève nos petites fleurs maintenant, alors qu'avant, on était un peu plus dur envers les jeunes. Il y a le blanc ou le noir. T'sais, toi, tu as une philosophie blanc et noir qui plaît à des gens puis qui déplaît à d'autres. Puis moi, ce que j'aime, c'est que les gens que tu brasses des fois qui sont un peu outrés là, de la façon dont tu leur jases, après ça, ils réfléchissent. Ils disent « Tabarouette, il vient me heurter à cet endroit-là. »
Au peut-être moins, parce qu'il ils vont y a réfléchir.
Peut-être parce qu'il y a quelque chose. Donc, ils ont réfléchi. T'sais, cette philosophie-là, toi, le blanc ou noir, explique-moi ça parce que c'est dans tes livres.
Oui. Ben, premièrement, je vis en multicolore. T'sais, j'ai une philosophie de vie blanc et noir, mais ma vie, elle est en multicolore. Je suis un jouisseur compulsif. Je suis le king de l'hédonisme. Je me lève à tous les jours pour jouir le plus souvent possible.
Ouais, je suis content qu'on ne soit pas à côté d'une garderie ou d'une école.
Mais,
en studio.
Mais vraiment de tout. Et, mais ma philosophie de blanc et noir, ça me permet de savoir précisément ce que je pense, ce que je dis puis ce que je fais de la façon la plus claire possible. Oui, bien évidemment, tu sais, à toutes les fois que j'abordais cette philosophie-là du blanc et noir, puis je vais rentrer dedans, là, il y a toujours un grand sage de mon industrie qui vient me voir et dit « Oui, mais Jean, la zone grise existe. Tu me niaises-tu, baptises? Tu penses-tu que je suis stupide 365 jours par année? Bien évidemment que la zone grise existe. Bien évidemment que j'y passe, moi aussi, de temps en temps. Mais justement, j'y passe, j'y reste pas. Tu sais, je suis pas l'écureuil qui traverse l'autoroute 20 puis qui est en plein milieu de l'autoroute 20 puis qui dit « Vas-tu à gauche, vas-tu à droite, vas-tu à gauche, vas-tu à droite? » Tu vas finir écrasé dans le milieu de la rue. Prends position. Fait que, puis justement, les livres que j'ai écrits, « Zéro nuance de gris », c'est des livres pour prendre position sur différents sujets. Prenez position, c'est bien ou c'est mal, c'est vrai ou c'est faux, c'est beau ou c'est pas beau, c'est oui ou c'est non, c'est t'es dans le chemin ou t'es sur le chemin. Prenez position. Les gens viendront jamais vous voir pour vous demander votre opinion si vous en avez jamais. Prenez position. Et votre position peut être telle à un jour et elle peut changer un petit peu dans le temps aussi. Il faut pas être non plus, pas parce qu'on vit dans le blanc et noir qu'il faut rester dans le blanc pur tout le temps. Tu peux changer un petit peu. C'est très rare que je vais passer du blanc au noir ou du noir au blanc. Mais mes teintes de noir, mes teintes de blanc, elles peuvent peut-être varier un petit peu. Tu sais, au début de ma carrière comme conférencier, je faisais souvent l'allusion à l'incroyable Hulk. Puis je disais, tu sais, Hulk, là, avec les mains qu'il a, quand il prend un bout de bois dans ses mains, là, il ne laisse pas aller facilement. Par contre, il peut délier les mains un petit peu, puis le bout de bois va changer de position un petit peu. Pour moi, c'est un peu ça. Être à l'écoute de ce que les gens peuvent partager avec toi comme opinion peut peut-être t'offrir ouvrir la main un petit peu, faire bouger un peu ton opinion. Pas assez pour passer de blanc à noir, mais sois à l'écoute de ça pour évoluer dans ton blanc ou évoluer dans ton noir. Mais prends position. Et ça, je vais le dire, là. J'hésitais à le dire, tu voyais bien, mais ma blonde, elle est dans la zone grise.
Ouais.
Elle est dans la zone. Puis elle ouais. Le dit, moi j'aime ça, genre, vivre dans la zone grise. Puis j'ai dit, chérie, à un moment donné, il faut que tu prennes position.
Ouais.
Tu l'as fait en me choisissant moi, peut-être au lieu d'un autre. T'es capable de le faire au moins une fois, tu le fais des fois. Mais dans la zone grise, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. T'es tout le temps en train de penser, repenser, puis souvent trop penser, puis faire du overthinking. À un moment donné, arrête de penser, puis fais-le. Tu vas peut-être te tromper, tu vas peut-être réussir, mais fais-le. Tu ne le sauras jamais. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver à la fin de tes jours, puis tu vas avoir le regret d'y avoir juste pensé. Hey, qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ta vie? J'y ai pensé. Moi, j'y ai pensé. Ça, je pensais à ça, là, ouais. Puis je me disais que c'était peut-être une bonne idée. Mais finalement, je ne l'ai jamais fait parce que j'y pense encore aujourd'hui.
Mais c'est vrai que des fois, moi aussi, je suis un peu blanc et noir. Là. Puis tu sais, ma conjointe, c'est la même chose. Puis l'autre jour, on s'ostinait parce que je disais, tu sais, Isaac, quand tu laisses traîner de quoi, puis pendant toute la journée, tu fais le tour plutôt que le ramasser, je trouve que c'est un peu lâche. Ben, ça se peut-tu que ça soit comme entre les deux? Ça se peut-tu que... Je sois pas super lâche. Non, c'est lâche. Là. Mm-hmm. Essaie pas de...
Tu le sais, en plus.
Dédouane-toi pas.
Ben non, exact, tu le sais.
De faire le tour de quelque chose que t'as laissé traîner à terre, mettons, dans le milieu du salon, ta sacoche, là. Tu passes par-dessus ou tu passes à côté, ramasse-la, puis mets-la une place où tu vas être capable de la récupérer lorsque tu en auras de besoin. Ouais. Mais bref, oui, je suis un peu noir et blanc. Tu doutes-tu des fois, Jean?
Oui, et c'est les portions où je passe par une zone grise. J'ai des doutes sur les choses que je ne sais pas et que je ne contrôle pas. Autant dans ma vie personnelle que professionnelle, mes doutes vont s'installer quand je n'ai pas la pleine connaissance ou le plein contrôle d'une situation. Mais j'essaie de fouiller qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour essayer de mieux comprendre, de ne pas nécessairement en prendre le contrôle, mais de ne pas non plus sentir que je n'ai pas le contrôle puis que je perds le contrôle.
Okay.
Puis c'est là que je prends une position. J'arrête de douter là-dessus, j'ai pris position là-dessus. Puis je l'exprime clairement. J'ai pris position sur telle autre chose. Mais est-ce que j'ai des doutes? Il y a quelqu'un qui m'a déjà posé la question, je ne sais pas si ça va dans le même sens, mais est-ce que tu regrettes des fois des choses que tu as dites aux gens, entre autres quand je fais du coaching one-on-one avec les gens? Là. Puis j'ai dit, rarement. Si je me permets de foutre mon coup de pied au derrière à quelqu'un, un ami personnel qui ne me paye pas pour le faire ou quelqu'un qui me paye pour le coacher, c'est parce que je juge, je suis pas dans le doute, je juge que cette approche-là, on est rendu là avec lui, puis je vais lui foutre mon coup de pied derrière avec autant d'amour que si je l'ai pris dans mes bras les trois premiers mois qui vivait quelque chose de terrible.
Mm-hmm.
Donc, mon approche est souvent, justement, difficile à comprendre parce que je prends cette voie-là de faire face à la difficulté. mais c'est la voie que j'ai, justement, en sortant du doute que je pense que c'est la bonne affaire à faire, bien, c'est la voie que j'ai choisie. Puis souvent, les gens disent « OK, tu me fais chier, mais ta partenaire, je suis obligé d'aller y réfléchir pareil. » Ouais. Pas « tu me fais chier, mais t'as raison. » Mon objectif n'est pas de... Moi, je pense que j'ai raison. Si je suis rendu à le dire, c'est parce que je suis sorti du doute puis que j'ai une opinion, puis que je l'ai dit, puis je pense que c'est la bonne. Mais j'ai pas besoin de me faire dire « Hey, tu m'as brassé, puis finalement, t'avais raison, Jean. » Ça, ça m'alimente pas. Okay.
Mais je comprends, ça, c'est à titre professionnel, mais à titre personnel, des fois, tu doutes-tu? Parce que moi, le doute, tu sais, ça me c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre dans ma vie, parce que ça me motive, parce que le doute, c'est incertain.
Ouais.
Le doute, c'est insécurisant. Quand je me dis « Attends un peu, j'ai-tu les moyens de m'offrir telle affaire? » Regarde, moi le faire, après ça, je vais me ramasser dans le trouble. Je vais douter que je ne peux pas arriver, puis là, je vais me trouver d'autres moyens de m'en sortir. Ça me sort complètement de mes bottines. Puis j'aime beaucoup quand le doute s'installe dans ma vie personnelle, mais pas professionnelle nécessairement.
Oui, mais je te dirais que non, je ne pense pas avoir dans ma vie personnelle. J'utilise beaucoup justement le fait que je sors du doute puis que je prends position dans ma vie professionnelle puis j'exprime ma position. Dans ma vie personnelle, est-ce que je doute? Pas bien.
T'es-tu certain qu'elle t'aime vraiment toi et qu'elle t'aime pas pour ton argent? Non, mais
non,
c'est...
Non, non. Ah, ben oh oui. Ben là, t'as des doutes. Là, tu débutes une relation, il faut que t'installes la question de la confiance. Tout ça. Fait que tu peux peut-être avoir des petits doutes à un moment donné, puis même pendant la relation, devant divers événements. Mais je reste pas longtemps là-dedans. Je perds pas de temps. Pour moi, être dans le doute, c'est comme d'être justement dans une zone grise, puis ça m'énerve d'être là.
Mm-hmm.
Moi, je veux savoir. Je veux savoir, puis passer à l'action sur ce que je sais, puis passer à l'action sur puis qui est bon, puis ne pas passer à l'action sur ce que je sais qui est pas bon. Mais je reste pas bien dans le doute. C'est une excellente question que je me suis jamais vraiment posée, mais ma première réponse, ça serait ça. Je suis pas souvent dans le doute.
Ouais. Ben, en tout cas, bref, moi, c'est un truc...
Avant d'agir, attends un peu, je suis rarement dans le doute avant de penser, parler et agir. Ça peut arriver que je sois dans le doute après, par exemple.
Mm-hmm.
J'ai-tu fait la bonne affaire? J'ai-tu allé dans le bon sens, dans ma vie personnelle? Professionnelle, non, parce que, tu sais, surtout quand je fais du coaching, tu sais, j'ai une responsabilité fiduciaire envers quelqu'un. Quelqu'un m'a payé pour lui donner du coaching. Je vais toujours bien lui dire ce que je pense qu'est la bonne affaire, à faire ou à ne pas faire. Donc, là-dessus, rendu là, je suis bien avec ça, puis je vis avec les conséquences, même si la personne n'a pas aimé ce que j'ai dit. Mais dans ma vie personnelle, pas bien.
OK. As-tu des idoles?
J'ai-tu des idoles?
Ouais. Moi, j'ai Nelson Mandela.
Ouais.
Un homme que j'admire incroyablement.
T'as lu son livre?
Sa résilience.
Long Way to Freedom, t'as-tu lu ça?
Ouais, exact. Hein? 27 ans en tôle.
Hey.
Est-ce que Nelson Mandela était parfait? Je pense pas. Oui, il y a des gens qui connaissent l'histoire de Nelson Mandela qui vont me dire qu'il faisait partie d'un groupe et ce groupe-là a fait des choses qui étaient pas nécessairement bien. Mais en même temps, il y avait une cause. Mais moi, je pense plus à Nelson Mandela, l'homme, là, celui qui a jamais fait de mal à personne.
Ouais.
Lui, je l'adore énormément. Mais j'ai une autre idole. Que j'aime beaucoup, mais qui n'était pas droite-droite, c'est Margaret Thatcher.
Okay.
Une femme de tête, une femme qui prenait des décisions pour son peuple, même si elle savait qu'elle n'allait pas être réélue. Au niveau de l'économie, elle prenait des décisions pour le bien-être de son peuple futur. Elle a comme un... Tu sais, dans son histoire, là, c'est pas tout rose. Mm-hmm. Tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de noir. Et je me dis, tu sais... Faut-tu faire attention des fois à quand on idéalise des gens? La vidéo que tu m'as envoyée ce matin, qui est sur ta page Facebook, Jean Nadeau, concernant les idoles, ça m'a fait beaucoup réfléchir.
Ouais, ouais. En fait, on a créé un mot qui s'appelle idole, puis idolâtrer quelqu'un, mais en anglais, ils appellent ça plus un role model, un modèle. Est-ce que, la question à laquelle je reviens souvent, moi, c'est est-ce que cette personne-là serait un modèle que j'aimerais présenter à ma fille ou à mon fils. Je dis, regarde ce modèle-là, je pense que c'est un bon modèle.
Mm-hmm.
Ça ne veut pas dire que la personne se doit d'être parfaite, mais il faut qu'il vienne rencontrer un minimum de mes valeurs à moi,
fondamentales, ben oui,
que moi je veux transmettre à mes enfants. Tu sais, je prends l'exemple justement dans la vidéo, je prends l'exemple de Steve Jobs. OK, j'utilise son appareil, j'ai un iPhone dans mes poches, un iPad.
Il est adulé partout dans le monde.
Il y a plein de citations qu'on utilise de lui. OK, mais c'est un trou de cul.
Ouais.
C'est un trou de cul. Au niveau business, il a fourré ses partenaires, mais pas à moitié. Puis au niveau familial, il a renié ses enfants. Tu sais, pour moi, c'est pas une idole.
Dans le film, on met ça un peu sur la maladie. Là.
Ouais, ouais, mais à un moment donné, OK, peut-être qu'à un moment donné, il s'en va embarquer là-dessus.
Il était Asperger.
Ouais, ouais, mais ouais, puis ça, c'est un sujet que je connais bien aussi. Mais si on prend un autre exemple que je donnais dans la vidéo de ce matin, Tiger Woods. Écoute, c'est le meilleur joueur de. Ça a été. C'est la plus grande légende de golf au monde. Mais il c'est un tricheur. C'est
ouais.
Il trompe ses blondes à tour de bras.
Oui, c'est vrai.
Je voudrais-tu, moi, de dire à mon fils, prends le modèle Tiger Woods. Non.
Ouais.
Fait qu'avant d'idolâtrer quelqu'un, tu sais, puis je regardais justement le match de hockey hier, puis tu sais, c'est des gens qui ont fait des. Qui ont réussi à se rendre dans la Ligue nationale. Mm-hmm. C'est des kings, là. C'est tous des kings, là. Ils sont rendus jusqu'à dans les séries. Ils sont rendus jusqu'en finale. Ils sont rendus, ils ont la coupe au-dessus des bras, au-dessus des bras, dans les airs. Merveilleux. Ça en fait-tu tous des bons modèles pour nos enfants? Pas certain, moi.
En surface, on a l'impression ouais. que, mais tu sais, si tu connais les filles et les gars personnellement, tu te rends compte des ouais. fois que, tu sais, OK, c'est des grands gagnants, mais de l'autre côté, c'est des gens qui sont tout à fait ignobles. Tu sais, je pense à... Écoute, je suis peut-être un peu cruel quand je vais dire ça, mais on va tous se souvenir de l'image d'Andrei Markov, là,
mm-hmm.
qui marche, qui sort d'un endroit, puis ça allait bien pour le Canadien à ce moment-là, puis il y a un jeune de 10 ans qui demande un autographe à Andrei Markov, puis il tasse du revers de la main, puis ouais, il le regarde même pas. Tu sais, ça, là, je veux dire... Ce jeune garçon-là avait peut-être Andrei Markov comme idole, puis le souvenir qu'il va se rappeler de lui, c'est que quand il a passé à côté, il l'a tassé, comme pour l'ignorer.
Tout à fait, tout à fait. Puis je pense qu'un des plus gros, tes pères de famille, toi aussi, moi aussi, un des plus gros défis qu'on a, nous autres, comme parents, mère et père, c'est d'être l'idole de nos enfants. Tu sais, quand on parle de role model, là, mm-hmm. Notre défi est d'être le meilleur... modèle pour nos enfants nous imitent. Fait qu'avant de commencer à chercher des idoles un peu partout dans le reste du monde, là, commence par t'occuper de l'idole qui est dans le miroir le matin quand tu te brosses les dents. Commence par t'occuper de cette idole-là. Toi, aujourd'hui, là, est-ce que tu as fait des gestes, est-ce que tu as posé des actions d'idole pour ton kid? Au moins un. Au moins un par jour. T'as-tu fait quelque chose dans ce sens-là ou pas pantôt? T'étais juste sur le idle puis tu te laisses aller ça, sur le cruise puis tu laisses aller ça puis tu continues à penser qu'il ne te voit pas faire les moins bonnes choses.
C'est un peu cruel, ce que tu nous dis là.
Ben, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir.
Oui, mais c'est cruel.
Puis je me le dis en même ouais. temps, moi aussi. Est-ce que je suis, moi, tous les jours, parce que je monte sur des scènes, j'écris des livres, ça fait-tu de moi l'idole parfait pour mon fils de
ton
17 ans?
Ton gars s'en sac de ça.
Ben, surtout à l'âge que là, 17 ans, là, ouais. On n'est pas trop dans l'idolâtrie. Là. Peut te le confirmer. Là.
Il va regarder de quelle façon tu traites ta conjointe, de ouais. quelle façon tu traites tes amis, de quelle façon tu le traites lui. T'sais, ils sont très, très, très attentifs, nos kids, là-dessus. Mais par rapport à nos métiers, là, c'est pas...
Mm-hmm. Mais ouais, mais moi, c'était pas tant comme au niveau du métier que comme, tu sais, je suis dans sa vie à tous les jours depuis ouais. 17 ans. Là.
Ouais.
Est-ce que j'ai été un bon modèle? Est-ce que je le suis encore? Puis il est pas trop tard pour le changer, ce modèle-là, si vous vous en rendez compte, puis vous avez jamais porté attention à ça. Donc, tu sais, l'idolâtrie, faisons attention à ça. Là. C'est pas parce que quelqu'un a réalisé quelque chose de grand dans une chose que ça devient un modèle général pour vos enfants. Tantôt, tu parlais de Mandela. Moi aussi, j'ai adoré. Il n'était pas parfait, lui, non plus.
Non,
mais
non, parfait.
C'en est un que je pourrais donner en modèle à mon enfant pour diverses choses. Tu parlais de Margaret Thatcher. Moi, c'est l'autre avant, bien avant. Churchill. Moi, Churchill, c'était tough en tabarnouche.
Ça en est un autre.
Ça en est un autre. Il était pour ses affaires, à lui. Dans mon domaine, à moi, au niveau des conférenciers, c'est Larry Wingate qui a été mon coach pendant un an. Puis que j'ai suivi, puis je suis allé voir aux États-Unis, on a lunché, en tout cas, un paquet d'affaires, mais ça en est un autre, ça, qui pour moi était un modèle à un point tel que ça aurait pu, c'était comme mon père professionnel. Est-ce qu'il était parfait? Sûrement pas. Il l'a dit lui-même.
Oui, j'avais pogné en deux minutes, puis là, ça vient de me popper à l'esprit. J'étais avec mes étudiants au Collège Radio-Télévision de Québec, puis je leur parlais toujours de François Bogingo, à quel point c'était un journaliste que j'admirais, un gars de terrain. Lui, il se retrouvait en théâtre de guerre. Il n'y avait aucun problème. Et boum! boom, François Bouguingo, horrible menteur. Il n'a jamais été aux endroits où il prétendait être. Mm. Par contre, c'était un raconteur hors pair. Mm-hmm. Il racontait des histoires. C'est un gars qui, au niveau de la communication, était exceptionnel. Mais moi, je disais à mes étudiants, prenez-le en modèle, Je disais, c'est un gars qui est vraiment un bel exemple pour ce qui est du journalisme au Québec. Finalement, pouf, tout s'écroule. Donc, ta vidéo de ce matin que tu as repris, parce que je pense que c'est quelque chose que tu avais enregistré.
En 2018, je pense que
tu avais enregistré sur le fly. Tu avais l'air d'être dans un métro ou gare de train.
J'étais dans une gare de train en Belgique. Je pense je faisais une tournée de conférence là-bas. Puis entre deux, c'est arrivé. Là, je me souviens pas pourquoi. Il est arrivé un événement qui m'avait déclenché cette vidéo-là, que j'ai dû fermer abruptement parce que mon train venait d'arriver. Là, mais c'est une vidéo que j'avais faite en 2018.
Mais bref, ça fait grandement réfléchir. Hey, la retraite s'en vient, mon ami. La retraite, la fameuse retraite silencieuse, c'est les dates, c'est au mois de décembre. Je pense que c'est autour du 2 décembre.
Vendredi 1er décembre jusqu'au dimanche. En fait, c'est le 1, 2, 3 décembre à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ça va être la cinquième. C'est dans 6 mois quand même, là, c'est dans un petit bout. Mais on a lancé ça, on a fait la quatrième, Régis Lachance et moi, qu'on avait reçu à l'émission à un moment donné. Là. Mm-hmm. On a fait la quatrième au mois de mai. 19, 20, 21 mai, puis dans les jours qui ont suivi, on a rappelé le moine là-bas, puis on a dit « Trouvez-nous des dates pour avant la fin de l'année », puis c'est les dates qu'il nous a données, 1, 2, 3 décembre. On retourne là-bas, c'est une retraite qui repose sur deux types d'expériences. Premièrement, ce n'est pas la retraite, ce n'est pas une retraite religieuse, pas parce qu'on se retrouve dans une abbaye avec des moines, puis que c'est catholique, puis tout le kit. Il n'y a absolument rien, là, mais 0 fois 0, là, de lien avec la religion dans notre contenu des ateliers. Mais on a choisi, en fait, j'avais eu cette idée-là moi-même au début, on a choisi cet endroit-là parce que quand tu sors des ateliers, tu te retrouves en silence. Dans une abbaye, c'est chute à tout le temps. Au deuxième atelier, je commence le deuxième atelier tout le temps de la même façon. Quelle portion de silence vous n'avez pas compris? Parce qu'on vous a fait un atelier tantôt, puis je me promenais, là, puis je vous voyais dehors, assis à une table de pique-nique en train de jaser ensemble, ou prendre une marche puis jaser, ou dans le corridor, dans un petit coin en train de jaser, en chuchotant. Non, non, silence, silence total. Dans une abbaye, c'est le silence total. Donc, la première expérience, je te disais que c'était en deux volets expérientiels, la première expérience, c'est de passer 48 heures dans une abbaye. T'as jamais fait ça, là?
Non.
T'as jamais fait ça, puis des moines, t'en as probablement jamais vu live, là, puis là, tu vas en voir live.
Jamais. Première fois que j'avais entendu parler de cet endroit-là, c'était un gars qui était ministre des Affaires étrangères sous l'ère Harper, qui, après avoir laissé des documents chez son ex-conjointe, s'était ramassé dans le trouble.
Puis, un genre de beauceron, mettons.
Ouais, c'est ça. Puis à son retour, il était venu parce que je m'occupais d'une télévision locale à Sainte-Marie-de-Beauce, puis c'était dans son comté. Puis il était venu prendre un café pour jaser de deux, trois sujets que je voulais lui jaser pour la télévision locale. Puis il me racontait qu'il avait été à cet endroit-là, puis il m'avait dit que c'était le plus beau ressourcement qu'il avait jamais fait de sa vie. C'est 3 jours de silence. Lui, je pense qu'il avait pris une semaine.
Ça se peut, oui.
Mais une semaine de silence où il n'a rien dit pendant une semaine. Puis il m'avait dit que c'est l'expérience la plus merveilleuse qu'il avait eue. Fait que j'ai hâte de voir.
Moi, je fais ça 3 fois par année, là, certains 3 fois seul, en dehors de la retraite. Parce que la retraite comme telle, je la co-anime. Fait que je ne suis pas vraiment en silence, puis c'est du travail. Là, mais sinon, j'y vais au moins 3-4 fois par année. Et c'est rendu un besoin. J'ai besoin de rentrer là, puis d'arrêter. Mm-hmm. Tu sais, de fermer l'ordinateur. Pas juste descendre les petits programmes dans le bas de la fenêtre de l'ordinateur, là. Déploguer du mur l'ordinateur. Là. Puis c'est ça l'effet que ça me fait. Donc, si on revient à la retraite, première expérience, c'est de passer 48 heures dans une abbaye en silence, que ce soit gars ou fille, parce qu'on a une permission spéciale. Habituellement, les femmes ne peuvent pas coucher dans l'abbaye comme telle. Il y a une maison au bout du stationnement, puis c'est la maison des femmes. Là. Et c'est pas une question là, parce que c'est des moines et tout ça, c'est juste que les 3 étages de ce qu'ils appellent l'hôtellerie de l'abbaye, il n'y a pas de toilettes et de douches dans les chambres. C'est au bout du corridor, puis bon, c'est des cubicules et tout ça. Ouais. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait de mixage là-dessus. Mm-hmm. Fait qu'ils ont fait une maison pour les femmes. Par contre, à notre retraite, on prend un étage complet de femmes. Donc, il n'y a pas d'hommes qui passent par là, puis les femmes sont à la toilette à l'autre bout. Puis, donc, on a un étage complet. Donc, c'est ça. La première expérience, c'est de vivre 48 heures dans l'abbaye. Et l'autre expérience, c'est de vivre à travers les 9 ateliers qu'on a bâtis, qu'on a composés et qui ont un momentum. On commence avec 2 ateliers le vendredi, 3 le samedi. Le samedi soir, on l'avait conçu comme ça quand on l'a bâti. Et à chaque fois qu'on vit cette retraite-là, le samedi soir, on arrive, puis là, on le voit, là, on le sent. Même ma blonde, c'est la première fois qu'elle assistait à la retraite, la dernière fois, c'est au mois de mai, puis elle me dit, le samedi soir, genre après l'atelier qui s'appelle le trait d'union, là, elle dit, j'étais pas mal sur le cul. Elle dit, vraiment, là, elle dit, là, vous m'avez eu d'un câble, là, puis le devoir que vous nous donnez à faire ce soir-là, là, elle dit, il n'y a pas personne qui s'attend à ça, personne qui s'attend, personne n'a pensé un jour faire ça, puis il faut qu'on fasse ça avant de se coucher, parce qu'il faut qu'on vous le remette là, avant le lendemain matin à 4h30 à l'activité mystère. On a une activité mystère le dimanche matin. Fait que il y a comme un pic, puis après ça, on commence à tout remettre ça en place le dimanche. Donc, la deuxième expérience, c'est de passer à travers, c'est de vivre les 9 ateliers qu'on anime, Régis Lachance et moi. À l'abbaye, ça inclut les 2 dodos, les 6 repas qui sont extraordinaires.
Oui, tu m'avais dit qu'on mangeait extrêmement bien.
Ah oui, on y mange très, très bien à chaque fois. Écoute, même, tu sais, je suis arrivé là la dernière fois avec un groupe de 30 personnes, puis ils m'ont tous dit, on a tous aimé ça. Fait qu'ils font vraiment de la bonne bouffe. C'est une expérience extraordinaire. Donc, je t'avais parlé à quelques occasions, mais je t'avais dit aussi que j'étais pour te challenger dans cette émission-là, parce que je t'ai tanné un petit peu, je t'ai envoyé un petit message de temps en temps, à un point tel ou à un moment donné, tu me dis, Jean... Comment tu me dis ça, Jean? Tu me fais penser à ma blonde?
Non, t'es plus... Attends un peu, je vais aller chercher le message.
T'es plus arsepare-solant? T'es plus insistant, non?
Attends un peu, je vais aller le chercher.
Ben, là, c'est juste parce que je veux pas le dire en ordre, je veux que ça soit toi qui le dise, c'est pas moi. Là.
Ben oui, attends un peu, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Jean, t'es pire que ma blonde quand elle veut du sexe. Mais comme ça, elle me le demandait chaque jour.
Exactement, ouais, c'est ça.
Non, elle me le demande pas chaque jour. C'est ça, je suis pas si exceptionnel que ça, finalement.
J'avais compris quand tu m'as écrit ça. Mais ouais, ben, c'est parce que tu m'avais dit, ouais, genre, on avait parlé quelques fois de la retraite. Puis
j'étais trompé de date. Je pensais que c'était pendant les congés de la construction. Puis le chum de la mère de mes gars, c'est un gars qui travaille sur la construction. Fait que là, ça représentait tout déplacer les affaires. Mais elle m'avait pas dit non. Ouais. Fait que, tu vois. Mais là, c'est le 1er, 2 et 3 décembre. Donc, j'ai le temps de me préparer.
Fait que là, tu me confirmes que tu vas être là.
Je te confirme que je vais être là.
Officiellement.
Oui.
Merveilleux. Merveilleux.
J'ai très hâte d'assister à ça. Ça va être la première fois que j'embarque dans une entreprise comme ça.
Ouais.
Ça va me faire du bien, je pense, 3 jours en silence.
Yann Lemoine.
Oui, on va essayer ça.
Mais c'est drôle, hein, parce qu'à la dernière retraite, je pense pas qu'on se soit parlé depuis ce temps-là. Il y a un gars qui était là au début, là, on est à peu près une trentaine dans la salle, puis on fait un petit tour de table rapide. Là. C'est quoi ton nom, puis tu viens faire quoi ici? Là, c'est pas comme les AA, là, mais on fait juste au moins se présenter. C'est une des seules fois que vous avez l'occasion de parler pendant la retraite. Puis il y a un gars, lui, quand il est arrivé à son tour, il dit « Ah, ben moi, je suis venu parce que ma blonde m'a dit de venir. » Puis le gars, un beau gars, mais tu sais, le gladiateur, là, une face là, carrée, là, puis sévère. Là, oh, Christy, lui, ça va être tough en fin de semaine de le gagner. Et écoute, à chacun des ateliers, Régis puis moi, on se regardait et on disait « Hey, il embarque. Regarde-le. Il embarque dans le projet. Il embarque dans les exercices. Il est fait.
Ouais. »
Tu voyais qu'il embarquait. À la toute fin, on faisait pas un tour de table à la fin, mais j'étais curieux. Je dis « Marc-André, toi, au début, là, tu nous as dit que tu étais venu ici parce que ta blonde était venue, parce que ta blonde t'avait traîné ici. Tu dis quoi maintenant? » Là, il y a comme un petit silence. Puis il dit « Ouais, tu es obligé de te dire que ma blonde a toujours des bonnes idées. » Christy, le gars, il est embarqué.
Ben
il est embarqué dedans. Donc, exact. Oui, ça va être une première pour toi parce que tu n'as jamais été dans un atelier, dans une retraite comme ça. En plus de ça, en silence, dans une abbaye. Donc, oui, c'est une expérience, mais pour l'instant, je te dirais, on touche du bois. Là, il n'y a pas une personne qui nous a dit après que c'était pas exceptionnel. Il y en a plein de retraites, puis il y en a plein de bonnes. Je pense qu'on a touché à quelque chose en faisant ça, entre autres à l'abbaye, puis dans le contexte dans lequel on le fait, puis avec les ateliers, puis de la façon dont on a bâti ça, il y a quelque chose qui est non seulement intriguant, mais il y a quelque chose pour vous là-dedans. C'est pas une retraite qu'on fait pour nous, c'est pas là, nous on fait une job, là. On livre les 9 ateliers, là. Mais c'est quelque chose que tu fais pour toi, puis quand est-ce que tu t'arrêtes dans la vie pour faire quelque chose pour toi, juste pour toi?
Jamais.
Puis en plus de ça, en silence,
mm-hmm.
Jamais on fait ça. Fait que je peux te dire de quoi, moi, quand je redescends de là, habituellement, quand j'y vais seul, là, puis je prends la route vers Québec après, à un moment donné, je me souviens, j'étais arrêté chez mon frère qui demeure à Sherbrooke, qui n'est pas très loin de là, puis c'était un dîner familial. J'étais mêlé en tabarnouche. Moi, j'arrivais d'une retraite de silence, j'arrive là, il y a des enfants, ça crie, la musique. Non, j'étais comme pas à ma place. Ça prend un petit bout de temps avant de rembarquer ces rails, puis de réaliser aussi le pas qu'on a fait. Faut pas que je m'avance trop dans ce que je te dis, là, mais le pas qu'on a fait pour la suite de notre vie. Puis rendu là, ça vous appartient, parce que nous, on n'est pas des changeurs de vie, là. on expose à travers 9 ateliers ce qu'on pense que vous, auquel vous devriez réfléchir sur votre vie. Mais quand vous sortez de là, là, ça vous appartient. C'est à vous d'aller faire quelque chose.
Comme je te dis, je me lâche dans le vide, yes. Je me sens en danger, je me sens dans le doute. J'ai hâte de vivre ça le 1er, 2 et 3 décembre. Est-ce qu'il reste de la place?
Il reste 7 places. En fait, on avait des chambres pour les hommes. Comme je te dis, c'est pas aux mêmes étages. Mais étant donné qu'il y a d'autres personnes, d'autres hommes individuels qui sont pas dans notre retraite à nous, qui avaient déjà réservé pour ces dates-là, on avait moins de chambres pour les hommes. On en avait seulement 6. C'est plein pour les hommes. Et on avait 19 places pour les femmes. Il reste 7 places au moment où on se parle.
Okay.
Et là, j'aimerais lancer un défi. Ben, un défi, c'est pas un défi. Une invitation. Plus une invitation aux femmes. Les gars, excusez-moi, mais vous viendrez à la prochaine parce que c'est plein, là. Mais les femmes qui sont à l'écoute de ton émission, si elles veulent s'inscrire, j'en ai parlé avec Régis hier soir, justement, puis j'ai dit, gars, j'étais avec Yannick demain, on offre-tu quelque chose? Fait qu'on a décidé que pour les femmes qui sont auditrices, de ton émission qui s'inscrivent avant vendredi soir minuit, vendredi cette semaine, mm-hmm. dans 2 jours, là, qui s'inscrivent, je vais vous donner le numéro de téléphone pour le faire, celles qui s'inscrivent vont recevoir mes 4 livres plus le livre de Régis. Donc, vous vous inscrivez, en partant, vous avez, ça donne 100 piastres, une valeur de 100 piastres de livre, on vend nos livres 20 piastres chaque, vous en avez 5. Les 4 miens, ceux de Régis. Donc, quand vous allez vous inscrire au numéro que je vais vous donner, ou si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire là, puis je vous donnerai les informations, je vous enverrai tout le détail à ce numéro-là par texto. Et quand vous allez vous inscrire, bien, vous faites juste me dire, bien, je suis une auditrice de Yann. Fait que juste en vous identifiant comme une auditrice de Yannick, de Marceau, ça vous donne le droit aux 5 livres, on va mettre ça en note, puis on va vous donner les 5 livres une fois sur place. D'après moi, ça va finaliser ça. On est à 6 mois quand même de l'événement, là, mais... il reste juste 7 places. Tu sais, on fait pas, sérieusement, très humblement, on fait pas de pression de vente parce qu'on le sait que ça va être plein de toute façon. Il aurait juste 7 places, mais c'est dans 6 mois.
Exact.
Mais là, on a décidé de faire une petite promotion.
Comment on peut te trouver sur les réseaux sociaux, Jean?
Donc, Facebook, je suis très, très, très présent sur Facebook. Je l'ai été à un moment donné sur TikTok, je le suis moins. Mais pour celles et ceux qui voudraient soit que je leur envoie des informations qui veulent tout simplement s'inscrire, je vous donne le numéro de téléphone. On a créé un numéro de téléphone, Régis et moi, spécifiquement pour répondre aux questions des gens, pour leur envoyer l'invitation, l'information et pour qu'ils s'inscrivent. Donc, c'est le 418-806-2729. 418-806-2729. Donc, toutes les auditrices de Yannick, de Marceau, qui veulent s'inscrire, vous m'écrivez à cette adresse-là. Je vais vous envoyer les informations. Et si vous faites partie du groupe, vous aurez 5 livres gratuits en plus.
Oui, puis sinon, pour en savoir plus sur toi, c'est jeannadeau.net, générateur d'action, gentil distributeur de coups de pied au derrière.
Yes.
Toujours un plaisir, puis on se rejoint dans quelques semaines.
Marceau, le soir. Le soir.
Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 42 millions. Ouais, ça brasse dans le boulier.
Nouveau logis, nouveau matelas. Matelas Dauphin facilite votre changement de matelas en vous offrant toute une vente. Économisez des centaines de dollars sur nos matelas de grande qualité, plus taxes payées. Matelas Silhouette, format double, ultra confortable, avec plateau Euro et couche confort haute densité, garantie 20 ans, en spécial à 689 $, taxes payées. Livraison gratuite et rapide. La vente déménagement dans tous les matelas Dauphin. La force du fabricant.
Québec Brew fête ses 25 ans. Aujourd'hui, pour célébrer, profite d'un bon hot hamburger pour seulement $7.99. Le hot hamburger à $7.99, c'est tous les mercredis. Profite-en. On t'attend. Québec Brew, Vanier, Charlebourg et l'Ancienne Lorette.
Pour des bières gaspésiennes de qualité, pensez Microbrasserie Pete Caribou. La saison des terrasses est de retour et leur fameuse Lollipop aussi. Une bière désaltérante et fruitée à saveur de citron, fraise et framboise. Microbrasserie Pete Caribou. Des bières bonnes à l'année, mais surtout bonnes au soleil.
Vivez pleinement votre été avec le nouveau Kia Seltos. Chaque modèle est bien équipé de caractéristiques de sécurité de pointe, comme l'assistance d'évitement de collision dans les angles morts. Vous pouvez ainsi compter sur une assistance de tous les instants et rouler en toute sécurité pendant chacun de vos déplacements. Optez pour le véhicule qui vous permet de combiner aventure et sécurité. Achetez votre Kia Seltos 2024 chez votre concessionnaire. Visitez kia.ca pour plus de détails. Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Lecarrière.fm.
À la recherche d'un nouvel emploi, le IGA Lac-Beauport, Sillery, Saint-Nicolas, Stoneham et Sainte-Brigitte-de-Laval ont besoin de vous. Plusieurs postes à temps plein et à temps partiel sont à combler dans divers départements. Bienvenue aux retraités. Avec un salaire très compétitif, des horaires flexibles et de nombreux avantages sociaux, c'est la job qu'il vous faut. Appliquez en ligne en succursale au IGA Lac-Beauport, Sillery, Saint-Nicolas, Stoneham et Sainte-Brigitte-de-Laval ou au carrière.fm.
Lecarrière.fm, là où votre nouvelle vie commence.
En participant à une étude clinique chez Syneos, vous contribuez à la médecine de demain. Saviez-vous que nous recherchons activement des femmes ménopausées ou chirurgicalement stériles? Plusieurs projets disponibles pouvant aller jusqu'à 10 365 $. N'hésitez pas à nous rejoindre au 1-866-262-7427.
Syneos Health. Pour un futur en santé.
Boulevard 102, 100 % Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propre.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Donc voilà, c'est ce qui met fin à l'émission pour ce qui est de ce soir, en espérant que vous ayez apprécié le dernier 60 minutes avec l'excellent JeanNadeau.net, gentil de distributeur de coups de pied au derrière, toujours très sympathique, on apprend plein de choses. Et ben voilà, pour ce soir, on ne prévoit pas beaucoup d'averses, peut-être encore une possibilité d'orage, là, mais bon, on va passer au travers les amis, puis on va réussir à arriver à demain sans aucun problème. D'ailleurs, demain, je serai en compagnie d'Élodie et Maxime pour ce qui est de Marceau le midi. Puis, ben voilà, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Hello, ça en vient, regardez, cogne à la porte.
Je vais rentrer!
Ben, on se laisse là-dessus, puis je vous souhaite de passer une belle heure en sa compagnie. Salut, à demain, ciao!
Marceau, le soir. Le soir.
Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 42 millions! Ouais, ça brasse dans le boulier!
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. AbbaExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
Depuis 2015, Hébergement Rive-Nord accueille des résidents présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. L'équipe dynamique est composée d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance, de travailleurs sociaux et plus pour veiller au bien-être des résidents au quotidien. Visitez temps.hébergementrivenord.com.
C'est le temps de gâter papa grâce à Mathieu Performance. Jusqu'à dimanche, obtenez 25 % de rabais sur une sélection de casques, souliers et maillots de vélo pour hommes en inventaire. De plus, découvrez la plus large sélection de vélos pour hommes à Québec. La fête des pères, c'est chez Mathieu Performance que ça se passe. 496 Première Avenue.
Dernière chance pour profiter de l'offre exclusive chez lavue.ca. Examen de la vue gratuit et la monture gratuite. Dépêche-toi de réserver à lavue.ca. Promotion exclusive à Sainte-Foy, Beauport et Fleur-de-Lys du 16 au 18 juin. Détails en magasin. Véronique Michaud, opticienne.
Boulevard 102, la radio de toutes. Tout le monde, tout le temps.
Ici Nathan de Weekend, pro du déménagement. T'as l'impression de perdre la tête? T'en fais pas. Polysleep est là pour que tu puisses te reposer. Profite de 30 % de rabais sur les matelas Polysleep, 100 % québécois et super confo chez nos détaillants participants ou sur polysleep.ca.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
La récolte des sourires vous invite à ralentir, surtout dans les quartiers résidentiels et les zones scolaires. Adoptez une conduite responsable et sécuritaire. La sécurité routière, j'en fais mon affaire. Une initiative de solidarité famille et sécurité routière. Merci de faire route avec nous.
Les vacances approchent et l'aventure ne débute pas qu'une fois à destination. Elle est aussi entre le départ et l'arrivée. Et au volant de votre nouvelle voiture de Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan, le trajet sera des plus sensationnels. Avec un léger comptant loué sur 24 mois, un Qashqai à 76 $ par semaine ou sur 64 mois, un Rogue à 469 $ par mois et démarrez l'aventure. Plusieurs modèles en inventaire, prêts pour les vacances. Détails chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
3, 2, 1.
BLVD 102.1.
Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère.
Le rappel d'Elo, c'est maintenant.
Avec Elodie Derry.
Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour le rappel d'Elo. Donc, une heure de musique ensemble, bien sûr, à Boulevard 102.1. Dans les quelques prochaines minutes, vous allez entendre du Foo Fighters, A Day to Remember, Nirvana s'en vient aussi. Alors, ça vaut la peine de rester branché, que ce soit sur le FM, sur l'application gratuite, sur le blvd.fm ou toute autre façon de nous écouter, parce que oui, il en existe d'autres. Vous êtes curieux? Textez-moi, 88-971-1021. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On l'a faite, finalement, malgré la grisaille du jour qui n'était pas très encourageante. On est en mode omnium de mini-pot Boulevard 102.1 avec des auditeurs, avec des animateurs qui s'affrontent au mini-pot et lance-balles vanier. Vous voulez vous tenir au courant de cette belle activité? Évidemment, on nourrit nos médias sociaux. Allez nous suivre sur Instagram. C'est parti en séquence avec Collective Soul au 102.1.
Why drink the water from my hand? Contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again.
Thank you.
102.1.
Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game, no.
Félicitations!
Oui,